Les deux bouts de la corde par Richard Keller, chapitre 5. Le gendarme nordiste, en fin connaisseur de la contrée, était chargé de dénicher un restaurant discret et sympathique. Il engagea le véhicule le long de la rivière, dans un chemin empierré. D'un côté, il y avait des platanes séculaires, et de l'autre le cours d'eau où le soleil se reflétait. Le miroir renvoyait des reflets argentés lorsque les eaux tumultueuses, par endroits, venaient se briser sur les rochers au milieu du lit. Le site était majestueux. Après les grands arbres, le chemin bifurquait sur la gauche, s'éloignant un peu de la rivière pour passer dans un défilé. La route s'enfonçait dans une barre rocheuse où, au beau jour, les adeptes de la varappe se retrouvaient. Au sortir du défilé, le chemin repartait vers la droite pour rejoindre les berges jusqu'au restaurant qui trônait sur la rivière. C'était un vieux moulin que le propriétaire actuel avait réparé et aménagé. Dans ce bâtiment du XVIIe siècle, il avait conservé et restauré une vieille roue en bois. Au-dessus, il avait mis une vitre très épaisse qui faisait office de carrelage pour la salle de restauration. Les convives pouvaient tout à loisir profiter du spectacle de l'eau qui s'engouffrait dans la roue. L'endroit était idéal pour un rendez-vous romantique. Les couples, légitimes ou pas, se retrouvaient ici les fins de semaine. Il n'y avait que deux voitures garées sur le parking. À la vue des gendarmes, le patron, qui connaissait le nordiste et son collègue, se dirigea vers eux. Ils précisèrent qu'ils voulaient manger et, si possible, seuls. Le patron, en bon professionnel, les plaça à l'autre bout de la salle. Il n'y avait qu'un couple, à l'opposé, bien occupé à se regarder dans le blanc des yeux. Ils s'installèrent et le patron proposa l'apéritif qu'ils refusèrent. En service, il faut toujours faire preuve de sobriété. Comme un seul homme, ils choisirent le même menu. Une entrée, avec de la charcuterie maison, une truite meunière et en dessert des profiteroles. De l'eau, pas de vin. Ce choix fut dicté par le gendarme nordiste qui venait assez souvent avec son épouse. En attendant, le chef Sagol donna la parole à chacun afin qu'il résume sa matinée. Le gendarme Gilles leur avait déjà tout dit. Il fut bref. Le nordiste avait rencontré la veuve qui habitait la grande maison bourgeoise. Il brossa un portrait au vitriol. C'est une perruche dont le plumage s'est terni à force de frotter contre sa cage. Le bec est encore acéré, mais comme le volatile, elle roule la langue dans sa bouche pour boire deux gouttes d'eau. C'est quelqu'un d'un autre temps, d'un autre monde. Elle s'entendait bien avec Toinette et Germain. Surtout, chacun chez soi. Elle n'a pas d'histoire croustillante à raconter. Ses enfants ont de bonnes situations. Sa fille est mariée avec le PDG d'un laboratoire pharmaceutique et son fils dirige un service au ministère de l'Emploi. Ils viennent l'été dans la maison familiale. Ils passent tous ensemble, une à deux semaines tous les ans. J'ai aussi rencontré le cimentier. Bronzé, il doit avoir 65 ans, mais il veut en paraître 50. Il est très sportif. Il fait une heure de gymnastique chaque matin. Lorsque j'ai sonné chez lui, il venait juste de terminer. Il était en nage. Très imbu de sa personne, il parle. Il ne vous écoute pas. Tout se rapporte à lui. J'ai dû faire preuve d'autorité pour me faire entendre et pouvoir poser mes questions. Paradoxalement, il aimait beaucoup les disparus. Sa peine semblait sincère. Ou bien c'est un super comédien. Il a fait aménager une vieille grange. L'habitation est immense. Il y a même un puits au milieu de la salle à manger. À l'opposé, un pressoir très ancien occupe une grande partie de la pièce. C'est une décoration très rurale mais magnifique. Il buvait l'apéritif une fois par semaine chez Toinette et Germain. Et la semaine suivante, c'était eux qui passaient chez lui. C'était un rituel quasi immuable depuis quelques années. Le cimentier espérait qu'un jour Germain lui vendrait le pré en face. Il lorgnait dessus depuis que la famille Montfort lui avait soufflé la terre où ils avaient parqué leurs chevaux. À la campagne, celui qui possède a le sentiment d'être quelqu'un. Et le cimentier a cet état d'esprit. Il pensait que son amitié avec Germain ferait le reste. Il ne brusquait pas les choses, et voilà que la faucheuse avait réduit à néant ses efforts. Il lui faudrait continuer son approche avec les héritiers et surtout avec Régis le fils. « Je vois, vous avez pris des notes. »« Oui, chef, » répondit le nordiste. Le chef Sagol s'adressa à l'autre gendarme. « Alors, et vous, qu'avez-vous pêché ?» Le gendarme Lia est un timide. Il fixa le bout de ses chaussures tout en prenant son souffle. Il réfléchit, redressa la tête et regarda le chef droit dans les yeux. « Je suis allé chez le transporteur et le cadre de la grande distribution. Le transporteur se nomme Seigle, comme la céréale. Le cadre, c'est M. Karl. J'ai donc rencontré M. et Mme Seigle. Eux aussi sont atterrés par ce qui s'est passé. Ils aimaient beaucoup leurs voisins. M. Seigle n'a pas hésité à évoquer leurs engueulades, car il n'y a pas eu que l'épisode du feu de broussailles. Ils se sont chamaillés aussi à cause des poules de Germain, qui, en sautant le grillage, s'était régalé des petits pois et des salades du potager de la famille Seigle. Cependant, le transporteur m'a dit qu'il était sanguin et ça ne durait jamais plus d'un jour ou deux. Chaque fois, leur lien en était renforcé. Ils allaient régulièrement prendre l'apéritif, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, partageant des repas ensemble. Madame Seigle a ajouté que Toinette et elle assistaient à des réunions Tupperware. Le mois passé, elle était venue à une démonstration de cuisine. Toinette semblait séduite par un procédé de cuisson sans matière grasse. « Comme ici, » rétorqua le gendarme Gilles. « Je n'ai rien noté de plus sur la famille Seigle, sinon que le fils a repris l'entreprise familiale. Il est marié et père de deux enfants. Au dire des parents, c'est un couple sans histoire. Le travail est difficile, mais la clientèle est faite depuis longtemps. Elle est très fidèle, alors l'entreprise souffre moins que la concurrence. » J'ai eu un entretien avec Madame Karl. Son mari est parti lundi matin en déplacement pour la semaine. Il s'absente très souvent. Il faut dire qu'il est responsable du secteur bazar pour tout le quart sud de la France. Elle m'a narré à peu près les mêmes choses que la famille Seigle. Eux aussi fréquentaient Toinette et Germain en compagnie de Monsieur et Madame Seigle le plus souvent. Madame Karl est une adepte de la maison Tupperware. Elle a assisté à la réunion culinaire du mois précédent. Elle n'a rien remarqué de particulier. Donc, Liard, nous pouvons affirmer que M. Karl était loin au moment du meurtre. C'est sûr, chef. Enfin, si vous le souhaitez, je peux vérifier. Pas pour l'instant, Liard, mais prenez note de l'endroit où était censé se trouver M. Karl. Le chef Sagol fit un résumé de la visite de la maison avec M. Gussion. Il affirma à ses collègues qu'ils avaient eu plus de matière que lui, l'entrepreneur n'ayant rien décelé d'anormal dans la maison. En tout cas, il s'occupe bien du chien. Je n'ai pas pensé que derrière la maison, il y a le poulailler avec quelques volailles. Elles doivent avoir faim. Madame Seigle m'a dit qu'elle jetait des déchets et du pain dur par-dessus le grillage. Et puis, si les poules ont faim, elles savent sauter la clôture, répliqua Lia. Le repas tirait à sa fin. Les amoureux étaient sortis et nos Pandores pouvaient les voir étroitement enlacés, se promenant sous les sols au bord du canal. Afin de réguler le débit de l'eau qui passait par le moulin, les constructeurs avaient creusé un passage avec une vanne. Lorsque le débit devenait trop fort, l'ouverture de cet obstacle permettait une régulation des flots. La particularité de ce moulin est que d'ordinaire, l'édifice est construit sur le canal. Ici, c'est l'option contraire qui a été retenue. Nos gendarmes dégustaient le café, car le patron vint apporter l'addition réclamée par le chef Sagol. Messieurs, je vous offre le café. Les quatre convives remercièrent chaleureusement et félicitèrent le patron pour le repas. Je n'y suis pas pour grand-chose, ici le chef, c'est mon épouse. Alors, vous lui direz bravo pour nous. Le chef Sagol sortit sa carte bancaire de son portefeuille et paya l'addition. Les gendarmes voulurent payer leur quote-part, mais le chef resta intraitable. « Je vous ai invité et l'on ne paie pas une invitation, bon sang !» Après un merci collégial, le groupe sortit et marcha 5 minutes au bord du canal, pour se dégourdir les jambes. Ils félicitèrent le gendarme nordiste pour le choix judicieux du restaurant. Ça coupait bien une longue journée. L'après-midi qui s'annonçait ne serait pas de tout repos. Il y avait 3 auditions programmées. Nicolas le facteur, Régis le fils de Toinette et Germain, et leur fille Martine. Le programme était chargé. Ils s'engouffrèrent dans la Peugeot, direction la gendarmerie.